2 Samuel. Je vous invite à vous tourner dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7. Continuons dans l'étude de la vie de David. Et nous allons voir comment un homme selon le cœur de Dieu réagit lorsque Dieu lui dit non. Pas toujours facile de s'entendre dire non, mais nous allons voir qu'avec Dieu, lorsque Dieu dit non, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour nous. Commençons à lire à partir du verset 1 du chapitre 7 de 2 Samuel, page 318 dans la Bible à la colombe. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez lever la main. Peut-être qu'il y en reste encore. Très bien. Je lis donc dans la version à la colombe. Lorsque le roi habita dans sa maison, il s'agit de David, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus, à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? « Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. » Arrêtons-nous là. Et vous souvenez que nous avons vu que après des années de passer comme un fugitif devant le roi Saül, David, qui avait été oint par le prophète Samuel pour devenir le successeur de Saül, avait dû vivre en se cachant, en se battant. Finalement, après la mort du roi Saül et de ses fils, dont Jonathan, qui était l'ami précieux de David, il est enfin reconnu comme roi, d'abord à Hébron, et puis ensuite sur tout Israël, et il décide d'établir le centre politique d'Israël à Jérusalem, la ville dont il est d'abord question, avec un mystérieux personnage, le roi Melchisédek, qui était le roi de Salem, le roi de paix. Il est enfin roi, il rassemble ses troupes, il gagne sur tous ses ennemis et il a enfin la paix. Il a probablement pas loin de 50 ans. Et tout semble lui réussir. Il a pu bâtir une maison pour lui. Et au milieu du succès, on voit qu'il a de bonnes fréquentations. Il est entouré par des gens spirituels, dont Nathan, qui nous est présenté ici pour la première fois dans la Bible. Nathan, ce sera le prophète qui reprendra David lorsque David va pécher avec Bathsheba. Et ça aussi, c'est un bon conseil, de fréquenter des gens qui sont spirituels, des gens qui ont le souci de plaire à Dieu, de faire sa volonté. Alors il y a l'extrême qui consiste à ne plus passer sa vie qu'avec des chrétiens, aller de réunion en réunion sans jamais se souiller au contact des païens. Et bien sûr, le Seigneur nous demande d'être des témoins pour lui. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez de la joie à vous retrouver ensemble entre chrétiens, à parler de Dieu, à étudier sa parole, à prier. Et c'est ce que fait David. Et David est là, il se relaxe un peu, il est arrivé au fête de sa gloire pratiquement. Et puis il peut voir, il a une très belle maison. Alors c'est une maison de cèdre. Le cèdre, c'était l'arbre de choix à l'époque pour construire une maison. Vous savez, les grands cèdres du Liban qui figurent toujours sur le drapeau libanais, si je ne me trompe. Et le roi de Tyr, le roi de la région du Liban, lui avait fait parvenir des matériaux du bois de cèdre. C'est au chapitre 5, verset 11. Hiram, le roi de Tyr, il avait envoyé des charpentiers, des tailleurs de pierre pour construire un palais pour David. Et David avait un superbe palais. On peut voir les ruines encore aujourd'hui de ce palais dans la cité de David. Et il est là, il se dit, j'ai vraiment une belle maison. Waouh ! Puis il regarde et puis il voit le tabernacle. Et on peut penser que le tabernacle, c'était aussi une belle tente, probablement avec des dorures et des choses conformément aux préceptes de la loi. En fait, il n'y avait pas de dorure dans la loi, il y avait des peaux de phoque qui devaient recouvrir le tabernacle. Puis il commence à se sentir un peu coupable. Il se dit, attends, moi j'ai une superbe maison et Dieu, il habite. Alors il savait bien sûr que c'était simplement une représentation de la présence divine, mais la présence de Dieu, elle se contente d'une toile. Moi je suis au Negresco et Dieu habite au camping de la Brague à près de la Valmasque, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se sent coupable et il fait part de son désir d'offrir à Dieu une belle maison. Il s'en entretient avec le prophète Nathan. Et là, on voit que Nathan, sa première réaction, il parle pas, il consulte pas l'Éternel, comme David n'a pas consulté l'Éternel. Il dit, ça c'est une super idée, ça. En plus, vas-y, fonce, fais, je crois que c'est une très bonne idée, et puis l'Éternel est avec toi, il va t'aider, ça va être formidable, quelle bonne idée. Mais nous voyons verset 4 que, en fait, Dieu reprend Nathan en lui disant, va dire à David que c'est peut-être une bonne idée, mais que je ne lui ai jamais rien demandé, et que ce n'est pas mon désir pour l'instant. Petite leçon à retenir de cet épisode, c'est que même un prophète, même un pasteur, même quelqu'un de très spirituel, il y a des moments où si on ne consulte pas Dieu, si on ne met pas les choses dans la prière, même les personnes les plus spirituelles peuvent réagir dans la chair. Et c'est apparemment ce qui se passe avec Nathan. Entre Nathan et David, on peut penser qu'on a affaire à des hommes très spirituels, mais là, ils ont court-circuité Dieu, ils font plus confiance à leur intelligence, à leur raisonnement, à leur bon sens, entre guillemets, qu'à Dieu lui-même. Ils ne vont pas consulter Dieu directement. Il faut que Dieu intervienne pour dire « Attendez, c'est bien gentil, mais ce n'est pas mon plan. » Et en tant qu'Église, nous aussi, nous pouvons faire des plans pour Dieu. Nous pouvons avoir des perspectives. On aimerait bien avoir une école biblique un de ces jours. On aimerait bien peut-être avoir un programme radio, avoir plus d'impact. On aimerait avoir plus de familles, peut-être pour équilibrer un peu tout le nombre des étudiants qui sont là. Mais est-ce que c'est notre bon sens, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ? Ensemble, nous devons chercher sa volonté, nous devons prier. Nous avons des réunions de prière régulières. Je vous invite à faire tous vos efforts pour participer, même d'une fois de temps en temps. Et puis bien sûr, il y a les moments plus particuliers, les trois jours de prière ou les jours de jeûne qu'on veut rendre plus fréquents. Mais encore une fois, si ce n'est pas Dieu qui construit son Église, nous travaillons en vain. Et Dieu, l'Éternel, dit à Nathan d'aller parler à David. Et il lui dit qu'en fait, il n'a jamais rien demandé. Est-ce qu'il a jamais demandé à une tribu, à quelqu'un d'une des tribus, de lui construire une maison de cèdre? Et puis, Dieu lui rappelle que avant de faire des plans pour Dieu, il est bon de méditer sur tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Médite un peu sur ce que j'ai fait dans ta vie, David. Tu étais un petit berger, c'est moi qui t'ai trouvé dans les pâturages, derrière un troupeau, pour être le conducteur de mon peuple d'Israël. C'est moi qui t'ai aidé partout où tu allais. J'ai retranché tous tes ennemis. C'est moi qui ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. C'est moi qui ai béni Israël, qui leur ai donné une terre promise, pour pas qu'ils soient humiliés, agités. Tu veux me construire une maison? Merci, mais c'est moi qui vais te construire une maison. Et Dieu, en faisant ça, joue sur les mots. Dieu aime beaucoup jouer sur les mots. Quand on lit les textes dans le texte original, on s'aperçoit que souvent, Dieu instruit en faisant des jeux de mots. Et là, le mot de maison a deux sens. Il veut dire d'abord un bâtiment où on habite, mais il veut dire aussi une dynastie. Comme on dit, par exemple, en parlant de la famille d'Angleterre, que c'est la maison des Windsor. Là, Dieu lui dit qu'il va bâtir une dynastie à David. Et nous allons voir que les plans de Dieu pour David sont bien plus grands que les plans de David pour Dieu. Je répète, les plans de Dieu pour David sont bien plus grands que les plans de David pour Dieu. Et ça, c'est vrai pour David, et c'est vrai pour moi et vous. Peut-être que nous disons, nous avons des grands plans pour Dieu, nous voulons faire des grandes choses pour lui, mais sachez, soyez convaincus que Dieu a des plans bien supérieurs aux vôtres pour vous, que vous n'en avez pour lui. Peut-être que vous voulez servir Dieu. Sachez qu'il a, selon Éphésiens 3:20, ce qu'il veut faire dans votre vie, par votre vie, dépasse de loin ce que vous pouvez penser. Ça, quelque part, c'est surprenant, mais ça doit nous encourager. Éphésiens 3:20, page 220, dans le Nouveau Testament, à la fin de la Bible. Dieu, par sa puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Non seulement Dieu peut faire ce que vous pensez, mais il va faire tout ce que vous demandez. Non seulement il peut faire cela, mais il peut faire au-delà de tout ce que vous demandez ou ce que vous pensez, mais il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons, si nous sommes à lui et si sa puissance, par la puissance de celui qui agit en nous, par son Esprit Saint, Dieu peut faire des choses fantastiques pour le royaume à travers nous. Il est bon de le savoir, il est bon d'en être convaincu, il est bon d'en être conscient, mais d'en être convaincu. David, nul doute, n'avait de bonnes intentions. Il disait « Dieu est formidable, je veux faire de grandes choses pour lui. » Et donc il a cette idée de bâtir une maison, mais Dieu lui dit « C'est moi qui vais te construire une maison. Je t'ai rien demandé, merci, mais laisse-moi te bâtir une maison. » Il lui promet, on va lire à partir du verset 13, ce sera lui, pardon, il annonce qu'il va lui construire une maison et il joue encore une fois sur le fait qu'il va non seulement construire un temple, mais il va construire une dynastie à David. Verset 12, « Quand tes jours seront accomplis, quand tu seras mort, et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, et celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Et verset 17, Nathan parla à David conformément à toutes ces paroles et à toute cette vision. Dieu dit à David qu'en fait c'est son descendant qui va bâtir un trône, un temple. Verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Et nous allons voir par la suite que c'est effectivement le roi Salomon qui va bâtir le temple à Jérusalem, connu sous le nom du temple de Salomon. Mais c'est une prophétie et souvent les prophéties bibliques ont un accomplissement immédiat et un accomplissement à long terme, même en termes d'éternité. Et lorsqu'il parle de son descendant, du descendant de David, il s'agit non seulement de Salomon, mais il s'agit aussi du fils de David dont il est question dans le Nouveau Testament, il s'agit de Jésus-Christ. Et là, cette prophétie, elle est pour la construction d'une maison qui servira de lieu où le tabernacle sera gardé, conservé, le temple de Salomon. Mais il est aussi question d'une maison, d'une dynastie, d'un règne qui durera à toujours. Alléluia. Et ce règne, c'est celui de Jésus-Christ. C'est un des titres de Jésus que d'être appelé le fils de David. Nous avons récemment, dans l'étude de Luc, le mercredi soir, regardé la généalogie de Jésus. Et il est intéressant de comparer les deux généalogies que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Il y a d'abord une généalogie dans Matthieu, au tout début, et puis il y a une généalogie de Jésus-Christ dans Luc, au chapitre 3. Et on va parler un peu d'un problème qui se posait à Dieu. J'espère, c'est un peu complexe, mais vous êtes capable de bien comprendre ça. Il y a deux généalogies de Jésus dans la Bible, et quand on y regarde de près, elles se ressemblent un peu, mais il y a des passages différents. Elles sont un peu différentes. Et l'explication, c'est qu'en fait, il y a d'abord une généalogie dans Matthieu qui serait la généalogie de Joseph. Vous êtes le fils de votre père, de votre mère, vous avez deux arbres dans la famille. Et si on sait que Jésus n'était pas le fils physique de Joseph, il n'en demeure pas moins que la lignée légale de Jésus, au nom de la loi, ça passait par Joseph. Et Jésus ne va pas descendre de David par Salomon, mais par Nathan. Alors, si vous voulez vous tourner dans Matthieu, donc tout début du Nouveau Testament, page 940, page 1 dans le Nouveau Testament, de première partie de la seconde partie de la Bible, il nous est présenté la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc on commence à Abraham et on descend jusqu'à Jésus, au verset 16. Et on voit la lignée des patriarches. Abraham qui engendre Isaac, Jacob, qui engendre Judas, etc. On arrive, verset 6, à Isaïe, qui engendra David. Et là, il est dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ça, c'est le péché de David qu'on verra prochainement. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, etc. Ça descend jusqu'à verset 10, Amon, fin du verset 10, Amon engendra Josias. Et puis là, il est question de verset 11, de Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconia engendra Shealtiel, Zorobabel, et puis ça descend. Finalement, on arrive, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nom de Yéconia. Yéconia, je vous invite à vous tourner un passage, une prophétie du prophète Jérémie 22, 30. C'est page 765 dans la Bible à la Colombe. Et l'Éternel fait dire à Jérémie une prédiction contre un certain Koniaou qui n'est autre que Yehoyakin, avec un N, qui est le fils de Yehoyakim, roi de Juda. Verset 24 du chapitre 22 de Jérémie, « Je suis vivant, oracle de l'Éternel, quand Koniaou, fils de Yehoyakim, roi de Juda, serait une bague à ma main droite, je l'arracherai de là, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je vous jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans cet autre pays où vous n'êtes pas né, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils porteront leur désir pour y retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc une image méprisable et brisée, ce Koniaou, ou on pourrait dire Yehoyakin ? Est-il un objet que l'on n'apprécie pas ? Pourquoi sont-ils jetés sur lui et sa descendance, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, car de sa descendance, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. Autrement dit, la généalogie de Jésus par Joseph, elle ne peut pas l'amener au trône de David, comme pour être le roi de Juda. Par contre, tournons-nous maintenant dans Luc chapitre 3, à partir du verset 23. Là, la généalogie part de Jésus et remonte jusqu'à Adam, qui est le Fils de Dieu. Verset 23 de Luc 3, page 67. « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph. » Ça, c'est l'aspect légal. « Mais il était fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchaï, fils de Yanaï, fils de Joseph, etc. » Et cet Élie, on pense que c'est le père de Marie. Et donc, cette généalogie de Jésus, elle vient par sa mère. Et là, lorsqu'on arrive au verset 31, on voit qu'il était fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, et ce Nathan, c'était le fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed. Donc on voit que là, on se connecte à David par Nathan et non pas par Salomon, parce que Salomon, il a abouti à la branche de Yehoyakin sur lequel il y avait eu une prophétie disant qu'il ne serait jamais dans la lignée du trône de David et de Juda. Alors, c'est un peu technique. Mais il est intéressant que dans notre passage de 2 Samuel, on voit que le Messie devait être un descendant biologique de David, sorti de ses entrailles. Et si Jésus ne pouvait entrer uniquement par la ligne de David à travers Joseph, il ne répond pas à ce critère. Et donc, la lignée biologique de Jésus, c'est dans Luc 3. Et la lignée politique ou légale plutôt de Jésus, c'est David par Salomon puis par Yéconia. Alors c'est un petit détail, mais c'est la précision des prophéties bibliques qui est en jeu. Il ne pouvait pas être descendant de Yéconia, Jésus, pour être sur le trône de David. Il fallait qu'il ait la solution de passer par sa mère. Et il y a des épisodes dans les Nombres où la descendance et l'héritage des filles de Tselophade, un autre passage un peu obscur, qui explique que la descendance peut se faire par les femmes. Dieu n'est pas il ne fait pas des prophéties au hasard ou pour il authentifie sa parole par ses prophéties. Et ça demande de notre part d'étudier la parole, de la vérifier, de comprendre la richesse et l'absolue réalisation de ses prophéties. C'est un petit exemple que j'ai voulu souligner au passage, parce que c'est justement cette promesse d'une maison faite à David. Le Messie devait arriver, et c'est Jésus qui bâtit un trône éternel, le trône de David. On dit de David, de Jésus, on l'appelle dans le Nouveau Testament, encore une fois, on ne l'appelle pas le fils d'Abraham, si lui-même dit qu'il est descendant d'Abraham, mais on ne l'appelle pas le fils de Jacob ou le fils d'Isaac, on l'appelle le fils de David. Parce qu'il y a cette prophétie, cette alliance qui est en quelque sorte faite par Dieu à David à travers Nathan pour lui dire « C'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui vais t'en bâtir une et tu vas voir que ma maison, elle est beaucoup supérieure au temple de pierre et de bois que tu peux me construire. » Alors, on sait par d'autres passages, un passage parallèle en fait dans 1 Chronique 17 explique que la même chose, que Dieu a refusé à David ce désir, il lui a dit non. C'est pas toujours facile d'entendre Dieu dire non à nos projets, mais on va voir comment David réagit avec grâce et comment c'est toujours la meilleure façon, c'est d'être finalement d'accord avec Dieu. Souvent, au départ, on peut ressentir de la colère, de l'incompréhension, mais Dieu, je fais ça pour toi, pourquoi tu me dis non? Je veux être missionnaire, je veux partir, et là tu fermes les portes, pourquoi? On va voir que David réagit comme nous devons réagir, mais au passage, nous savons que c'est finalement son fils Salomon qui va être celui qui va construire le temple. Et dans 6, au verset 7, c'est le roi Salomon qui parle et qui dit « Mon père David eut à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or l'Éternel dit à mon père David, « Puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, car ce sera ton fils sorti de tes entrailles, ce sera lui qui bâtira la maison à mon nom. » Donc ça, c'est la première réalisation que Salomon poursuit en disant, verset 10, « L'Éternel a tenu la parole qu'il avait dite, je me suis levé à la place de mon père David, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai mis l'arche où se trouve l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec les Israélites. » Salomon parle de la réalisation première de cette alliance qu'on appelle des fois l'alliance davidique, cette grande promesse faite à David de lui établir un trône qui subsisterait à toujours. Dans l'histoire, il y a des trônes qui ont duré longtemps, mais on n'a pas de trônes qui durent depuis des milliers d'années. Là, ce n'est pas des milliers d'années, c'est des siècles et des siècles, c'est l'éternité. Le trône de David va rester, va subsister. Et Jésus va s'asseoir sur le trône de David. Ce qui nous convainc que Jésus va revenir, il va sans doute siéger physiquement sur un trône de David en Israël, à Jérusalem. Les promesses de Dieu sont sûres. Les promesses de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on espère se voir réaliser, peut-être. Nous pouvons fonder notre vie, nos décisions sur les promesses de Dieu. On a souvent la fâcheuse habitude de parler de promesses en pensant aux promesses humaines. les promesses qu'on nous fait, que les gens ne tiennent pas. Mais soyons honnêtes, combien de promesses faisons-nous que nous ne tenons pas nous-mêmes ? Combien de fois disons-nous « je viendrai, je ferai ceci, je ferai cela » ? Et donc le mot de promesse, on parle des promesses électorales. C'est un jour pour parler de promesses électorales. On sait que les promesses électorales, en général, elles sont plus belles que la réalité. Les promesses de Dieu, elles ne sont pas plus belles que la réalité parce qu'elles sont la réalité. Est-ce que nous pouvons vraiment mettre ça dans notre cœur, dans notre tête? Les promesses de Dieu sont irrévocables. Nous pouvons nous appuyer sur ces promesses. Et nous avons des promesses dans tant de domaines. Il nous promet de nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous laver de toutes nos iniquités. Il nous promet la paix. La paix, je vous laisse, je vous la donne, pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas, mais qu'il soit dans la paix. Jean 14, 27. Il nous promet de nous guider, de nous diriger. Je t'instruirai dans les voies, je te montrerai le chemin que tu dois prendre. Je te dirigerai avec mes yeux. Psaume 32, verset 8. Il nous promet de nous faire grandir. Philippiens 1, 6. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera jusqu'à la fin, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous pouvons compter sur sa promesse de trouver de l'aide auprès du trône de la grâce. Hébreux 4, 16. Pour faire confiance à ses promesses, il faut les connaître. D'où l'importance de connaître la parole, de la lire, de la méditer, de la mémoriser, de la prendre par cœur. Au passage, il y a ce petit livre, Les promesses de Dieu par thème, qui est disponible au dépôt vente. Je vous invite à regarder si vous connaissez pas ce petit livre. Et ces promesses, Dieu va les réaliser. Il explique dans 1 Chronique 22 pourquoi il dit non à David. Un Chronique 22, verset 6. David appela son fils Salomon, lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots, « Tu as beaucoup versé de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. » Son nom, Salomon, est apparenté au mot shalom, shlomo, shalom, encore un jeu de mots, c'est le mot de paix, shalom. C'est un homme de repos, de paix, à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours son trône royal en Israël. Et donc, David se voit dire non par Dieu, et il pourrait réagir dans la colère, dans l'incompréhension, dans le refus, dans le déni. Mais voyons comment David réagit à partir du verset 18. Après que Nathan lui ait confié le nom de Dieu, N-O-N. Verset 18. Alors le roi David, on est à 2 Samuel 7, 18, le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel ? Et qu'est-ce que ma maison, ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur Éternel ? Que pourrais-je te dire de plus, David ? Que pourrais-je te dire de plus, David ? Il parle comme un enfant, il parle de lui-même à la troisième personne. Que pourrais-tu dire de plus, David ? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël et que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom ? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ses nations et de ses dieux pour qu'ils t'appartiennent. Tu as affermi ton peuple d'Israël afin qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on se dise « L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à tes serviteurs en disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. David aurait pu s'offusquer, se rouspéter, mais il remercie Dieu de cette promesse, de cette alliance qu'il fait avec lui en lui promettant un trône pour toujours. Et devant le plan de Dieu pour lui, il s'émerveille et il dit « Mais Dieu, qui es-tu ? Qui suis-je devant toi ? Seigneur, tu es incomparable, tu es grand, tu es éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Tu nous as tellement bénis et maintenant tu promets encore davantage de bénédictions. Je n'en reviens pas, je suis époustouflé, je n'en reviens pas. Mais David sait que ses paroles sont vérité et que cette promesse est vérité et il l'invoque dans sa prière. Il prie Dieu en disant « Maintenant, Éternel, agis selon ta parole. » Est-ce que vous faites ça des fois ? Est-ce que vous prenez une promesse de Dieu ? Les enfants du juste n'iront jamais mendier pour du pain ? Et peut-être que l'euro devient si cher devant le dollar que votre soutien missionnaire, s'il vient des États-Unis, est très faible. Le pouvoir d'achat diminue. Est-ce que vous paniquez ou est-ce que vous dites à Dieu, je sais que tu as promis que mes enfants ne mourraient jamais de faim. Que ta parole soit accomplie, Seigneur. Agis selon ta parole. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce missionnaire qui avait pour habitude de prier les promesses de Dieu et qui des fois, lorsqu'il priait longuement, se contentait de prendre la promesse, ouvrir sa Bible à la promesse, mettre son doigt sur la promesse, mettre sa Bible sur sa tête et marcher. Prendre une promesse et la montrer, la rappeler à Dieu. Dieu ne s'en offusque pas. Sa parole est la vérité. Il sera au contraire heureux de votre confiance en lui. Amen. Les plans de Dieu pour nous sont bien plus grands que les plans que nous formons pour lui. Il est émerveillé. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Il aurait pu, encore une fois, se rebeller. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous devons nous devons chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Dieu dit une chose importante, nous l'avons vu dans ce passage, lorsqu'il disait que tu as voulu me construire une maison, et c'est bien que tu aies cette pensée dans ton cœur. Dieu est toujours très doux et diplomate avec nous. Il nous encourage. Si vous avez l'idée de servir Dieu, peut-être en partant comme missionnaire, en devenant pasteur ou en étant un évangéliste ou simplement en élevant une famille dans les voies du Seigneur, c'est peut-être pas exactement le plan de Dieu pour vous. Peut-être que vous voulez avoir, vous dites, « Oh, j'aimerais avoir 12 enfants et les élever pour qu'ils deviennent tous des missionnaires. » C'est un noble plan. Mais peut-être que Dieu veut que vous partiez vous-même comme missionnaire, ou l'inverse. Ou il peut remettre en question vos plans. Soyez prêts à faire sa volonté, soyez prêts à être flexibles. Notre pasteur américain, le fondateur du mouvement Calvary Chapel, Chuck Smith, dit qu'il a rajouté un verset au passage des Béatitudes en disant « Bienheureux les flexibles, car ils ne seront pas brisés ». Si nous formons des plans et que nous ne voulons pas en démordre, le Seigneur va devoir nous briser. Par contre, si nous sommes prêts à lui dire « Seigneur, je reconnais que ton plan est meilleur », alors il peut nous utiliser et il peut se glorifier dans notre vie. Voilà donc ce passage, cette façon de réagir lorsque Dieu dit non, c'est de coopérer, c'est de reconnaître humblement qu'on avait une bonne intention, mais qu'on est d'accord pour reconnaître que le plan de Dieu est supérieur à notre plan. C'est intéressant parce que j'avais intitulé ce passage ou ce sermon « Quand Dieu dit non ». Et ça fait depuis le 30 juin 2006, donc ça fait presque 20 mois, qu'on a adressé une demande à la préfecture de Nice pour pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale des dîmes. Et samedi après-midi, j'ai reçu une réponse de la préfecture, et c'est la préfecture qui dit non. Et nous pouvons faire appel de cette décision, et je pense que nous allons faire appel de cette décision, parce que je ne suis pas encore convaincu que ce soit Dieu qui dise non. Ça, c'est juste pour rappeler que attendez que ce soit Dieu qui vous dise non, et pas seulement les circonstances. C'est une petite nuance, mais c'est très important. Dieu peut dire non, finalement, mais l'ennemi peut aussi saborder le travail de Dieu en faisant que les circonstances, les hommes, les choses, nous disent non. Et sur le moment, j'ai dit, « Oh, Dieu me dit non. » Et puis j'ai dit, « Non, c'est le sous-préfet sous la dictée d'une secrétaire qui a estimé qu'on n'avait pas répondu à des coups de fil qui nous convoquaient. On a fait une longue lettre pour expliquer qu'on était disponible, que le numéro qu'ils avaient utilisé n'était pas le numéro qu'on avait donné sur le courrier qu'on avait envoyé, etc. Si Dieu dit non, alors soumettons-nous, mais ne prenons pas non comme une réponse, tant que nous ne savons pas que c'est Dieu qui nous la donne. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple de David. Merci de nous montrer que on ne peut jamais faire plus pour toi que tu ne veux faire pour nous, Seigneur. Seigneur, c'est presque comme si tu nous mets au défi, tu nous le fais dans le domaine de la dîme, Seigneur, d'essayer de faire plus pour toi que toi tu vas ne faire pour nous. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour toutes ces promesses que tu nous fais dans ta parole, Seigneur. Apprends-nous à les apprendre, à les connaître et à les invoquer, Seigneur, comme David le fait en acceptant ta parole par le prophète Nathan comme vérité absolue, vérité qui va s'accomplir quoi qu'il advienne. Seigneur, merci pour cet exemple de David qui se soumet dans l'humilité, dans la joie. Nous voyons que, en lisant les passages, qu'il va contribuer à cette construction, il va faire tous ses efforts pour rassembler les matériaux pour que ce désir que tu avais mis quelque part dans son cœur et qu'il avait dans son cœur, il puisse le voir se réaliser par son Fils. Seigneur, nous te faisons confiance pour nous diriger, Seigneur. Nous te faisons confiance pour répondre à nos questions. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies et surtout par notre foi. Nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas te plaire. Amen.